vendredi 2 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, c'est le roi Charles III qui viendra faire la lecture du discours du trône le 27 mai prochain, donnant le coup d'envoi à la 45e législature du Canada. Dans sa première conférence de presse depuis les élections fédérales du 28 avril, le premier ministre élu Mark Carney a indiqué que son nouveau conseil des ministres sera annoncé dans la semaine du 12 mai et il devrait être paritaire. Puis, il rencontrera le président des États-Unis, Donald Trump, mardi prochain à Washington, avec qui le Canada a plusieurs enjeux à soulever, notamment sur les tarifs douaniers.
Je ne veux pas négocier au public, en effet. Il y aura des discussions difficiles en ce qui concerne par exemple les tarifs, selon nous, les tarifs du fentanyl, c'est pas clair pourquoi ils sont encore en place. Mais ce sera une négociation complexe.
La course à la direction du Parti libéral du Québec est entrée dans son dernier droit puisque le nouveau chef sera élu à la mi-juin. Et s'il est élu, le candidat Pablo Rodriguez va réintégrer une députée qui avait été expulsée du caucus libéral par l'ancienne chef Dominique Anglade.
Marie-Claude Nichols revient à la maison.
Ouais! Marie-Claude Nichols, c'est cette députée qui avait provoqué une crise interne chez les libéraux en 2022 car elle était frustrée de ne pas avoir été choisie par son parti pour occuper les fonctions de troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. La chef Dominique Anglade avait même expulsé du caucus. Elle siégeait depuis comme indépendante.
On tourne la page, rentre au bercail.
Pablo Rodriguez accepte donc que la députée de Vaudreuil revienne dans la famille libérale et il demande aux électeurs qui ont déserté le PLQ de revenir eux aussi.
On va battre la CAQ et on va former le prochain gouvernement du Québec. Ouais!
Marie-Claude Nichols ignore si elle pourra réintégrer le caucus libéral si ce n'est pas Pablo Rodriguez qui remporte la course à la direction. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Cogeco Nouvelles a appris que des jeunes de Saint-Constant pourraient devoir parcourir une dizaine de kilomètres pour se rendre à la polyvalente alors que l'école de quartier se trouve à distance de marche. Le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries a dévoilé la semaine dernière son intention d'exclure l'école primaire Piché-Dufraud du territoire desservi par la future école secondaire Jacques Lebert dès la rentrée 2026. Selon le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, il manquera environ 600 places dans la nouvelle école pour y accueillir tous les élèves.
Il aurait dû penser l'école un peu plus grande pour combler l'ensemble des besoins. Là, on aurait dit à 4 étages. C'est quoi de rajouter un étage? Ou même, le terrain est quand même assez grand. Je sais qu'ils sont supposés démolir l'ancienne école, ce qui est construit à côté présentement. Ils sont supposés démolir l'ancienne école pour faire un terrain de soccer synthétique. Moi, on leur a dit lundi, mais pourquoi la démolir maintenant? Prenez l'autre école aussi. Trouverez un autre terrain pour faire le soccer synthétique ailleurs. Là.
La décision du Centre des services scolaires sera rendue le 25 juin. Un hydravion s'est renversé dans la rivière Richelieu en fin d'avant-midi. Les services d'urgence ont été appelés peu après 11 heures dans le secteur de la montée Robert à Saint-Basile-le-Grand. Un occupant a pu nager jusqu'à la rive et un autre a été sorti de l'appareil puis conduit à l'hôpital. Toutes les hypothèses sont envisagées pour expliquer cet événement. L'auteur du meurtre sordide de sa conjointe, Jaël Quentin, en présence de leurs enfants Mascouche en janvier 2020, n'aura pas droit à un nouveau procès. La Cour d'appel rejette la demande de Benoît Cardinal, basée entre autres sur le fait que le juge a écarté la possibilité qu'une troisième personne pouvait se trouver sur les lieux du meurtre. À moins que la Cour suprême renverse cette décision, l'ancien éducateur de centre jeunesse devra passer encore plus de 20 ans derrière les barreaux. En Allemagne, une voiture a percuté un groupe de personnes dans le centre-ville de Stuttgart, faisant plusieurs blessés selon la police. Le quotidien allemand Der Spiegel indique que c'est survenu à un arrêt de tramway que le conducteur de la voiture a été arrêté. On ne sait pas encore si c'est accidentel ou intentionnel pour l'instant. Et au sport, Martin Saint-Louis est finaliste au titre Jack Adams, remis annuellement au meilleur entraîneur-chef de l'année dans la LNH. Vous écoutez.
La Coupe Memorial s'amène au Colisée Financière Sun Life de Rimouski du 22 mai au 1er juin prochain. Faites partie des personnes VIP qui vivront LA soirée d'ouverture officielle exclusive de la 105e Coupe à l'Hôtel Rimouski dès 19h le 22 mai. Rencontrez les joueurs des 4 équipes du tournoi ainsi que des figures marquantes du monde du hockey. Régalez-vous d'un succulent repas aux saveurs régionales. Billets en vente dès maintenant au lch.ca, section Coupe Memorial 2025.
La radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
CFIX FM 93.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93. CFIX.
Débat. Autre vue. Jusqu'à 15h. Vous écoutez La Commission. La Commission. Voici Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu vas prendre l'air avec ton cellulaire. Tu crois que t'es super avec ton cellulaire?
Tu crois que t'es super avec ton cellulaire? C'est qui chante ça? Je sais pas. Hein? C'est très sympa. Benoît Briand, c'est trop drôle. Oui, les cellulaires et les enfants, les adolescents. Pour mettre la table, un auditeur a pris soin de nous écrire ceci. J'ai deux ados de 13 et 15 ans. L'été dernier, j'ai été défié de réduire l'utilisation du téléphone et iPad à un maximum de 3 heures par jour. Imagine, Luc, en nous engageant, ma conjointe et moi, d'en faire autant. Croyez-le ou non, nous en sommes à 2h30 maximum par jour et les cellulaires sont restés à la maison toute l'année scolaire, à part quelques rares exceptions.
Bravo.
En toute honnêteté, c'est pour moi, c'est pour la transition, en fait, c'est pour moi, pour la transition était plus facile pour lui, c'est ce que je comprends. Avec la fin de son message, merci.
Ben oui, moi, écoute, hier, je disais à mon fils, lâche ton téléphone. Pendant que je disais ça, j'étais en train de jouer au sudoku sur le mien.
C'est du grand n'importe quoi.
Mais là, je me suis promis, à chaque fois que je me disais lâche ton téléphone, je vais poser le mien.
Non, mais conviens un espèce de pacte avec lui.
Ouais.
Garde Henri, je mets mon téléphone de côté. Pendant une heure, on essaie ça ensemble. Faut que tu fasses ça avec
lui. C'est bon, ça.
Faut que tu fasses ça avec lui.
C'est un bon point.
Oui. 14h06. Merci d'être là. Bienvenue à nos auditeurs du 104.7 du côté de l'Outaouais. Si la nouvelle d'interdire le téléphone cellulaire à l'école par les parents était bien accueillie par les parents, mais bien des jeunes, vous le savez peut-être, auront de la difficulté à s'adapter. Alors, on se demande aujourd'hui avec notre invité, que peuvent faire les parents face à des enfants, des adolescents qui sont accros à leur téléphone? Est-ce que vous avez déjà tenté de retirer le téléphone ou la tablette à votre enfant et qu'est-ce que ça a donné? Nancy Doydon est là, elle est coach familiale. Dans le passé, elle était également éducatrice en milieu scolaire. Bonjour, Nancy.
Bonjour, bonjour.
Ça fait très longtemps qu'on s'est parlé, Nancy. Merci d'être là. Merci, merci. Alors, est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a des gestes, des trucs pour réduire la dépendance des téléphones intelligents auprès de nos enfants et de nos adolescents?
Ben, tu sais, moi, je suis la première à être bien d'accord avec cette initiative-là du gouvernement de diminuer le recours aux écrans. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'il y ait un coup de barre qui soit collectif, là. Je pense que les parents aussi ont leur job à faire. Puis, tu sais, vous l'avez nommé tantôt, la première étape, c'est est-ce que nous, on est accro? Deuxième étape, c'est de mettre des moments où on se dit, OK, ben, dans tel moment, tu sais, si on veut pas être tout le temps juste en termes de temps d'écran, je suis pas tant une partisane de temps d'écran, mais de dire, ben, il y a des moments où c'est pas permis. Donc, au repas, c'est non. Une heure avant le dodo, c'est non. Quand on a de la visite, ben, je te demande, par exemple, de passer la première heure avec nous, puis s'il n'y a pas d'autres enfants de ton âge, ben là, je vais te permettre par la suite, peut-être, ton écran, mais la première heure, tu la passes à discuter avec les adultes. Si y a des enfants de ton âge, ben, il n'y a pas d'écran, sauf peut-être, en fin de soirée, un film. Donc, la première affaire à faire, avant de dire, ben, pas plus que tant de temps, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, de se dire, ben, on réduit à 3 heures par jour ou à tant d'heures semaine, dépendamment si c'est des ados ou des jeunes enfants. Mais tu sais, c'est de dire, ben, on se met des moments où on se l'interdit à tout le monde. Donc, tu sais,
bon,
moi, comme
c'est
parent,
bon.
Ben, si, tu sais, si j'ai une montre intelligente, ben, pendant le repas, ben, si ma montre, elle vibre, ben, il faut que je résiste à la tentation de regarder sur ma montre qui est en train de me texter. Mmh. Plus ça va, plus je trouve que c'est difficile pour tout le monde. Puis, il faut, comme société, qu'on change ça. L'autre élément que je trouve important, c'est de regarder avec nos jeunes, être plus dans une logique d'ajout que de retrait. Tu sais, moi, avec j'ai eu 3 ados à maison, puis c'était, ben moi, tu sais, si tes tâches sont faites, tes devoirs sont faits, puis que j'ai pas besoin trop d'intervenir, puis que tu socialises avec des amis en vrai, puis que tu fais de l'activité sportive, ben moi, je vais pas trop t'achaler avec ça. Fait que, tu sais, dans la mesure où tu as d'autres choses dans ta vie, là, je vais pas t'achaler avec ça. Le problème arrive quand on a des jeunes qui ont soit des besoins particuliers, entre autres des jeunes qui ont peut-être un TSA, de l'autisme, un jeune qui aurait un TDAH important, puis qu'il y a du mal à s'occuper à autre chose. Des jeunes qui sont très introvertis, qui ont du mal à se faire des amis. Puis là, tu sais, je le voyais, moi, sur ma page Facebook, là, les gens réagissent, puis disaient, ben moi, mon enfant est timide, et je sais pas comment qu'elle va faire, tu sais, ça n'a pas d'écran pour s'occuper le midi. Des enfants aussi, tu sais, qui auraient, par exemple, des troubles d'opposition, des enfants qui sont très opposants, là, ça commence à se corser sérieusement parce qu'ils risquent de tomber dans le piège de toujours essayer de contourner la règle. Tu sais, moi, j'ai été éducatrice spécialisée au scolaire, puis je me disais, oh my God, la première année, là, que ça va être instauré, ça va être du sport pour les intervenants scolaires qui vont passer leur temps à intervenir sur les jeunes, à surveiller, parce que les jeunes vont dissimuler le téléphone dans leur poche. Puis tu as certains jeunes qui vont même avoir encore plus envie d'être sur leur téléphone du fait qu'ils n'ont pas le droit d'y aller.
Nancy, ils vont les cacher dans leur sandwich. On sait pas comment ils les aiment, leur téléphone. Là, je veux dire, comment ça se fait que tu es en train d'écouter ton sandwich, ta chose?
Non, mais c'est justement...
Tu as sur des trucs sur ton sandwich.
Non, mais c'est exactement... ben là, tu nous as donné des trucs déjà, Nancy, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut que le parent fasse équipe avec son jeune dans cet apprentissage de moins consommer son téléphone cellulaire, moins consommer sa tablette, etc., moins consommer de temps d'écran, devrais-je dire?
Ben, quand on a un enfant avec qui on a un bon lien, puis qu'on est capable d'avoir une espèce d'attitude de fermeté bienveillante, ben écoute, t'as pas le choix, mon grand, mais je vais t'aider, puis c'est moi aussi, je vais faire un effort de passer moins de temps sur les écrans de mon côté, puis on va regarder ensemble, je vais te soutenir là-dedans. Ça, c'est une chose, mais quand on a un jeune en trouble d'opposition ou en trouble de comportement, ou quand le lien est complètement détruit avec l'enfant, ben là, il y a des parents chez qui, puis je l'entendais là dans ma communauté, moi c'est ma spécialité, les enfants qui ont des troubles de comportement. Mmh. Et j'ai des parents pour qui j'entendais beaucoup d'anxiété. D'une part, des parents qui me disaient, ben moi, mon enfant là a des particularités, puis à l'école, quand ça va pas, pour se calmer, pour réussir à se réguler quand il est envahi par les émotions, il me texte, puis là, je l'aide à se calmer à distance, ou il m'appelle, puis là, je l'aide à se calmer à distance. Donc, s'il a plus son téléphone, s'il peut plus communiquer avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Il va exploser à l'école, je vais être encore obligée d'aller le chercher, puis on va retomber dans la spirale, par exemple, des suspensions scolaires. T'as certains jeunes que le fait de ne pas avoir leur téléphone, sont tellement accros que ça va les amener à être dans une espèce de position de sevrage. Ou ben l'intervention, tu sais, par exemple, si l'intervenant scolaire confisque le téléphone parce qu'il a pogné le jeune à texter aux toilettes, par exemple, parce que là, les toilettes vont être monopolisées dans les écoles, ça c'est clair.
Mon Dieu, hein?
Les jeunes vont devoir faire la file pour aller aux toilettes. Mais tu sais, si le jeune fait confisquer son téléphone, ben il faut s'attendre à ce que chez les jeunes qui sont vraiment accros ou les jeunes qui ont des comportements explosifs, qu'il y ait des explosions, une augmentation des crises, en fait.
C'est intéressant.
À moyen terme et à long terme, je crois fermement que la diminution du temps d'écran peut aider les enfants à être moins impulsifs, moins opposants, puis peut aider. T'sais, moi, la première chose que je fais quand je rentre dans une famille où il y a un jeune qui est explosif, fait des crises, je coupe le temps d'écran. Surtout les jeux vidéo. C'est la première chose que je fais. Et souvent, les parents, juste en faisant ça, voient une grosse différence.
Mais là, c'est intéressant.
Mais
alors, quel est
au début, par contre, c'est
recommandé. Ouais, moi, j'ai une idée.
Mais ma question va sembler peut-être un peu naïve, là, mais quel est le lien entre des enfants qui ont trouble d'opposition et l'utilisation de téléphone intelligent ou de tablette pour jouer à des jeux vidéo?
Ben, quand les enfants jouent à des jeux vidéo, ça déclenche un peu leur système d'alarme interne et ça fait sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Le cortisol va les aider à être ultra focus sur le jeu vidéo, mais ça vient aussi beaucoup gruger leur énergie puis ça amène une espèce de fatigue mentale. L'adrénaline, c'est une hormone qui est agressive. C'est ce qui permet que le jeune va être très impulsif, mais tu sais, ça l'amène à réagir vite dans ses jeux vidéo. Sauf que quand il ferme son jeu vidéo, il est boosté à l'adrénaline et ça fait une espèce de petit baril de poudre sur deux pattes. Donc, c'est pour ça que plus un jeune va passer du temps sur un écran, plus il risque d'être irritable et explosif par la suite.
Ah, attendez. Par la suite, ça veut dire les prochaines minutes, prochaines heures, prochaines semaines?
Dans les prochaines heures. Dans un bon 2 heures par la suite.
OK, d'accord. Merci.
Intéressant.
Et là, plus le jeu est stimulant, plus le jeune va avoir sécrété d'adrénaline, plus il est explosif par la suite.
Intéressant.
La question n'était pas si naïve que ça.
J'ai une proposition à vous faire.
Oui, allez-y.
Tu utilises ton téléphone tant que tu veux.
Oui.
Mais il y a juste Wikipédia dessus.
Oui, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Il y a Alex qui nous écrit, il est enseignant, il est tout à fait favorable à l'interdiction du cellulaire. Il nous raconte ce qui se passe en